Parcours intérieur, saison 2, le podcast qui vous dit tout sur la préparation mentale.
L'endurance mentale, c'est comment développer des capacités attentionnelles dans le temps. C'est résister, hein, apprendre à résister des fois un peu traité, apprendre à résister à la frustration. En tout cas, c'est avoir cette capacité attentionnelle dans le temps.
Le golf en tant que sport a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. Si les golfeurs réalisent désormais l'importance de la préparation physique, le lien est moins évident entre préparation physique et préparation mentale dans le cadre de la performance. Et pourtant, 4h30 sur un parcours nécessite d'être à son meilleur, bien entendu sur le plan technique, mais également sur le plan physique et mental. C'est cette interaction physique-mentale et leurs effets combinatoires que nous allons aborder aujourd'hui avec Cédric Coquet. Bonjour Cédric.
Bonjour Christelle.
Cédric, vous êtes le coordinateur de la préparation mentale à la Fédération française de golf depuis 3 ans. Et la première question que nous avons envie de vous poser, c'est que se passe-t-il déjà au niveau physiologique lorsque l'on effectue un exercice physique et qu'il y a une dépense énergétique ?
Alors, il y a des vrais impacts, des impacts qu'on pourrait appeler sur le plan neurologique et chimique. C'est-à-dire que la première chose qu'il y a, souvent, il y a une production d'endorphines. Donc, ça, on peut aller jusqu'à 5 fois de la valeur de production d'endorphines que quand on est au repos ou quand on est en préparation physique. Donc, c'est un effet d'apaisement. Donc, bien sûr, sur le plan mental, c'est très intéressant. Ça a presque un effet même euphorisant. Mais aussi une production de dopamine. Ça agit sur l'humeur. Donc, c'est très intéressant aussi pour nous puisque ça va diminuer la sensation de fatigue. Et puis ça va augmenter la sensation de plaisir. On va sécréter aussi une troisième chose, c'est de l'adrénaline. Alors l'adrénaline, elle est quand même intéressante parce qu'elle permet de vraiment se mettre en alerte, donc d'être assez vigilant et puis de fournir l'effort nécessaire. Donc on a ces trois productions. Mais il y a aussi un impact physiologique qui vient complémenter tout ça. C'est-à-dire qu'on va remarquer qu'on a un meilleur souffle souvent après. On a une espèce de deuxième souffle. On a aussi plus de stabilité dans la posture. Et en golf, la stabilité de la posture, le maintien des angles, c'est assez important. Et puis on peut même augmenter la vitesse de la tête de club, augmenter l'endurance. Donc ça a des effets mentalo-techniques très intéressants.
Oui, c'est très large finalement.
Très très large, en effet, oui. C'est un grand spectre.
On va écouter maintenant quelqu'un que vous connaissez bien, David Baudrier, puisque vous travaillez avec lui. Il est préparateur physique donc au centre de performance de Terre-Blanche. Il va nous parler de cette relation justement entraînement physique et préparation mentale.
Mais il y a évidemment un lien entre préparation physique et préparation mentale. Un esprit sain dans un corps sain, la maxime date pas d'hier. Donc oui, c'est compliqué d'être bien mentalement si tu es friable physiquement. Et vice-versa, si tu as des blessures, que tu n'es pas en pleine possession de tes moyens, c'est compliqué d'être mentalement confiant et fort et en condition. Et vice-versa, il n'y a pas d'utilité à être fort physiquement si tu es faible mentalement. Donc il y a une étroite corrélation entre les deux. Et moi, je sais que j'accorde une très grosse importance à cette relation entre le physique et le mental.
Alors David, qui s'occupe également de joueurs professionnels comme Romain Langasque et Pauline Roussin-Bouchard, nous a décrit, selon lui, les bienfaits de la préparation physique sur la prépa mentale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces bénéfices, Cédric ?
Ah oui, la préparation physique, quand on en fait, c'est même indispensable pour obtenir de la régularité, mais quand on en fait, on simule des situations de stress pratiquement. On se rapproche de la compétition. Donc on a plusieurs effets. Le premier effet, c'est qu'on a un effet sur le dépassement. C'est pas évident sur un parcours de golf de cultiver le dépassement. Ben, en préparation physique, on peut vraiment aller sur la notion de détermination, de dépassement.
Qu'est-ce que vous appelez précisément le dépassement ?
Alors c'est vraiment essayer d'aller au-delà de ce qu'on se croit capable de faire. Un joueur, il essaye d'obtenir un score, et puis il y a des croyances. Dans ces croyances-là, il y a des croyances qu'on essaye de vraiment de travailler avec les joueurs en préparation mentale, mais pour aller au-delà de ces croyances, pour aller au-delà de ce qu'ils se sentent capables de faire, c'est vraiment le bon biais, la préparation physique. C'est ce qui nous amène à, par exemple, comment courir un peu plus vite, comment soulever un peu plus fort. Donc, on est dans des situations de dépassement qu'on ne peut pas retrouver dans le golf et qui sont transférables au golf.
Mais c'est parce qu'on se sent physiquement très bien qu'on a l'impression d'avoir une force presque démultipliée, qu'on a la sensation qu'on peut se transcender après sur le parcours ?
En effet, c'est si on se sent physiquement mieux et qu'on a le sentiment d'être capable d'aller un peu plus loin quand on se sent capable, qu'on va obtenir de la confiance, de l'estime de soi, et tout ça, ça va avoir un impact sur le parcours.
Et donc ça va être un cercle vertueux, en fait.
Complètement. Mais il y a aussi un effet, par exemple, on a remarqué sur la concentration. C'est-à-dire qu'une personne qui pratique de la préparation physique est capable de tenir son attention beaucoup plus longtemps. Et en même temps, elle est capable aussi, quand il y a besoin, de décontextualiser. Par exemple, une personne qui fait du cardio sur un tapis, eh bien, elle va être capable de penser à autre chose tout en courant. Et ça, entre deux coups, sur un parcours de golf, quand on marche, ça peut être très intéressant comme outil mental qu'on peut travailler sur l'aspect physique aussi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus pourquoi est-ce que c'est si important de décontextualiser, justement, sur le parcours, entre deux coups ?
Bien souvent, les joueurs viennent me voir pour être encore meilleurs en concentration. Alors, on travaille sur la routine de leur shot et de leur pré-shot leur permet d'être plus concentrés. Mais souvent, ils restent trop focus longtemps. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester focus aussi longtemps. 4h30, 5h, vous l'avez dit, c'est beaucoup trop long. Donc, pour être mieux concentré, il faut apprendre à se déconcentrer. Donc, décontextualiser, c'est sortir du contexte de la compétition. C'est par exemple imaginer qu'on est dans un endroit de vacances, qu'on est dans un endroit agréable. En hypnose, on travaille ça, on appelle ça la safe place. Des fois, avec certains joueurs, on le travaille ça aussi. Donc, le fait de décontextualiser de temps en temps sur le parcours, puis de revenir dans la concentration par la routine, eh bien, ça aide à avoir une concentration beaucoup plus intense et beaucoup plus régulière pendant les 4h30.
Et donc, vous travaillez aussi sur cette notion d'endurance mentale ?
Complètement. Complètement. Alors l'endurance mentale, c'est très intéressant et à travers la préparation physique, c'est comment développer des capacités attentionnelles dans le temps. Donc l'endurance mentale, c'est résister, hein, apprendre à résister des fois un peu traité, apprendre à résister à la frustration. En tout cas, c'est avoir cette capacité attentionnelle dans le temps. Donc cette endurance mentale, elle est très intéressante parce que elle peut, à travers les compétences physiques, c'est-à-dire le fait de tenir dans des exercices, de tenir des séries, souvent les préparateurs physiques, ben, t'as 5 séries de temps, bien d'apprendre à tenir les séries dans le temps, on s'aperçoit que c'est transférable aussi dans les exercices d'endurance mentale sur le parcours, par exemple, ou dans les entraînements. Moi, je fais faire des potes, par exemple, il faut rentrer de 1 mètre à 10 mètres. Alors, pas à la suite, mais il faut pouvoir rentrer le 1 mètre, le 2 mètres, le 3 mètres, jusqu'à 10 mètres. Donc, c'est assez frustrant parce qu'on rate assez souvent. Des fois, on fait 60, 80 potes pour réussir.
Il ne faut pas s'énerver. Voilà.
C'est ça. Donc, il faut résister à la frustration, il faut résister physiquement, il faut résister au focus. Et donc, ceux qui sont préparés physiquement ou qui ont un peu plus d'endurance physique, ils arrivent beaucoup mieux à résister.
On va écouter à nouveau David Baudrier nous parler justement de cette endurance mentale et la façon dont il la travaille avec une de ses élèves, la professionnelle Pauline Roussin-Bouchard.
Pauline fait partie des athlètes qui, si elle sait qu'elle est bien préparée, est inarrêtable. Pauline marche beaucoup comme ça, son capital confiance provient très souvent de la qualité de sa prépa, de son entraînement et de son physique. À l'entraînement, tu peux lui mettre n'importe quoi, des choses faisables comme pas faisables. Elle va aller le faire. Il y aura donc une dimension mentale énorme dans ce qu'elle fait, parce que pour elle, on doit être capable de tout. Donc, c'est le genre d'athlète, Pauline, où tu te poses pas vraiment la question de est-ce qu'elle va trouver ça trop dur ou pas. Tu lui proposes, elle va y aller, elle va le faire et on fera les comptes après. Donc, oui, il fonctionne comme ça.
Et vous, justement, Cédric, en tant que préparateur mental, comment est-ce que vous la faites travailler, cette endurance mentale ? Vous avez parlé donc des putts de 1 mètre à 10 mètres. Quels sont les autres moyens que vous trouvez aussi pour la travailler ?
L'endurance mentale, elle peut, comme je vous l'ai dit, être travaillée sur un practice, hein, c'est-à-dire sur des situations de putting. On peut faire, par exemple, ce qu'on appelle une croix d'Ozaki. On met aux 4 points cardinaux du trou des tees à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, puis il faut faire le tour et rentrer tous les potes. Ça, c'est un autre exemple. Mais par exemple, sur des parcours d'entraînement, moi, par exemple, souvent, j'élimine un côté. Par exemple, je dis pour un joueur qui jouerait
sur le fairway, par exemple.
Sur le fairway, qui jouerait en fade, donc une balle pour un droitier qui sort à gauche et qui tourne un peu à droite, on élimine toute la partie droite du pré-rough et du off, et là, il faut remettre une balle et on compte un score. Donc, ça veut dire qu'on réduit le fairway. Donc, on met de la contrainte.
Et une certaine pression, bien sûr.
Et
une certaine
pression. Il faut donc résister. Donc, ça veut dire rester concentré, rester focus, faire quand même de bonnes routines malgré la contrainte, malgré la frustration qui peut monter. Donc, on rend, en fait, l'entraînement plus dur pour rendre la compétition plus facile. Voilà.
Et pour les golfeurs amateurs qui ne disposent pas toujours de beaucoup de temps, quel type, justement, de préparation physique préconiseriez-vous en premier lieu, est-ce qu'il faut plutôt se concentrer sur des exercices cardiovasculaires ou sur du renforcement musculaire ?
Alors, Je dirais un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, l'élément cardiovasculaire sur la dimension mentale est très intéressant. On a vu l'exemple de Pauline Roussin-Bouchard, qui fait beaucoup de cardio aussi. Donc quand on a le sentiment de pouvoir beaucoup résister sur le plan cardiovasculaire, on résiste mieux mentalement. Donc ça, c'est un fait. Donc ça serait déjà le premier conseil. Vraiment, essayez de développer un peu plus votre cardio et vous allez voir les changements sur le parcours. Mais la partie cardio et le golf... Il y a une particularité, c'est-à-dire qu'en fait, en golf, on recherche une stabilité dans la posture et on recherche de la puissance. Et donc, l'idéal, ça serait vraiment aussi de travailler de temps en temps du cardio training à travers des ateliers de musculation, donc de mélanger le développement de la force et de la puissance et en même temps de développer l'aspect cardiovasculaire.
Mais ça, c'est vraiment quand on dispose de beaucoup de temps et qu'on est presque néo-professionnel, parce qu'on sait que les professionnels, ils ont le temps de tout faire, si je puis dire. Mais si je reviens un peu plus à mes amateurs, vous disiez donc que le cardio est peut-être la priorité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le cardio serait la priorité ?
Sur l'effet cardiovasculaire, quand on améliore son aspect cardiovasculaire, alors pour des amateurs, ça peut être simplement faire de la marche rapide, ça peut être simplement faire du vélo ou de la natation. Simplement que plus on améliore ses capacités cardiovasculaires, plus on diminue la puissance. Donc, c'est là où je dis qu'il y a un compromis à trouver. Donc, l'élément cardiovasculaire est très intéressant parce qu'elle augmente l'énergie du système nerveux autonome. En fait, on augmente son niveau d'énergie totale. Et chez le golfeur, on doit augmenter non seulement l'énergie, ce qu'on appelle sympathique, c'est-à-dire l'énergie qui est un peu excitante, qui donne de la puissance au driving.
Qui est positive.
Qui est positive et qui est très énergisante. Mais on doit aussi augmenter l'énergie parasympathique du système nerveux autonome, qui, elle, est plus calmante. Et sur l'aspect mental, il faut savoir donner de la puissance au driving, c'est bien la complexité du golf, et en même temps, il faut savoir appuyer sur le frein et calmer un tout petit peu de temps en temps l'aspect excitant que l'on peut avoir sur un parcours. Donc l'idée, c'est de développer le niveau d'énergie totale du système nerveux autonome. Et l'aspect cardiovasculaire est très intéressant parce qu'on s'est aperçu qu'il développait le niveau d'énergie totale sympathique et parasympathique.
Et donc concrètement, pour les amateurs et donc les licenciés qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Est-ce que c'est passer plus de temps sur le parcours plutôt que de rester aux practices ? Parce qu'il y a aussi cette dimension cardiovasculaire. Est-ce que là, comme ça, c'est une façon relativement naturelle de travailler son cardio ?
Alors, c'est évident que plus ils font de parcours, plus ils marcheront et mieux ce sera. En fait, ils seront dans un développement de la préparation physique spécifique. Donc, associer la marche tout en associant le jeu, c'est-à-dire augmenter le nombre de trous joués par an, ça va augmenter leur capacité physique de fait. Maintenant, je pense qu'ils y gagneront aussi un peu à passer un tout petit peu par le renforcement musculaire ou le développement cardiovasculaire à côté. Ce serait-il que pour soi-même, le développement personnel. Mais c'est très intéressant de travailler, par exemple, l'aspect cardiovasculaire par la marche, puis de temps en temps de s'arrêter et de reprendre en main la fréquence respiratoire, par exemple, et de s'entraîner à faire de la respiration, comme on en a parlé la dernière fois.
Oui, parce que ça, en fait, c'est utiliser aussi des techniques mentales pour travailler son cardio. Cette cohérence cardiaque, il y a pas mal justement de techniques mentales aussi que l'on peut utiliser.
On peut utiliser beaucoup de techniques mentales à travers la préparation physique. Et d'ailleurs, David, le travail, on en avait parlé, c'était vraiment d'introduire les notions de respiration, cohérence cardiaque, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ou même de la respiration relaxante, où on inspire 3 secondes et on expire 6 secondes. Donc ces deux types de respiration, c'est bien de les remettre en place au moins une fois, chaque fois que vous faites un peu de cardio, ou même une fois quand vous sentez que vous marchez un peu vite et que vous voulez un peu reprendre votre souffle, ça vous entraîne à l'utiliser. Puisqu'en compétition, c'est deux respirations dont vous aurez besoin pour pouvoir réguler et vos émotions et votre concentration.
Et au centre de performance de Terre-Blanche où vous travaillez, comment est-ce que justement vous travaillez avec les jeunes espoirs du golf français ? Dans quel sens est-ce que vous les faites travailler ?
Alors, il y a surtout deux grands axes. Le premier grand axe, c'est l'axe du défi sur la préparation mentale et physique. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, on demande aux préparateurs physiques d'aller dans le défi. C'est-à-dire d'aller dans quelque chose qui est dans le dépassement de soi.
Donc vous les poussez, il faut toujours les pousser en fait.
Voilà, on les pousse de manière à ce qu'ils soulèvent un peu plus lourd, de manière à ce qu'ils courent un peu plus longtemps, et on développe une forme de combativité. Donc l'aspect physique, non seulement il y a le développement physique, mais il y a la notion de défi. Et puis, moi, je les emmène beaucoup sur la connexion aussi au corps, c'est-à-dire de revenir dans l'instant présent, être un peu plus connecté au corps.
Alors, comment vous faites alors précisément ? Parce que c'est une notion pas évidente à saisir, justement, pour ces jeunes.
Complètement. Rester connecté au corps, c'est rester connecté aux sensations. Ces jeunes-là passent, comme beaucoup de jeunes et des jeunes qui peuvent nous écouter, ou si vous avez des enfants, ils passent du téléphone au sport, à regarder la télévision ou à lire un livre. Ils essayent de tout faire en même temps. On sait que l'attention, elle se découpe à ce moment-là. Le système attentionnel humain, c'est une attention à la fois. C'est-à-dire qu'il faut rester focus sur une seule chose à la fois. Et on sait que quand on se reconnecte au corps, on a une augmentation, on a une facilité après d'apprentissage, on a une accélération des apprentissages. Donc se reconnecter à ses sensations pendant qu'on fait de la préparation physique, c'est se reconnecter à la posture, c'est se reconnecter à ce qu'on va ressentir au niveau des appuis.
Par exemple, est-ce que vous leur faites fermer les yeux pour mieux ressentir le corps? Est-ce que c'est des choses comme ça?
Quelquefois, oui, oui. Et en tout cas, on enlève les écouteurs avec la musique, c'est-à-dire qu'on peut en mettre de temps en temps pour se stimuler, mais surtout, on essaye de vraiment écouter son corps et les sensations durant la séance. Et quand on est d'ailleurs sur un parcours, et si vous êtes sur un parcours, vous pouvez faire exactement la même chose. Par exemple, vous attendez au départ d'un trou, bien à ce moment-là, vous pouvez parler avec les autres, vous êtes en train de décontextualiser, il faudra revenir dans le contexte avec la routine, mais vous pouvez aussi très bien vous connecter à vos sensations. Les sensations dans les chaussures de golf, les sensations de relâchement du dos, les sensations de quand vous avez votre driver en main, de l'appréhension des mains sur le grip, par exemple.
Et le stretching, est-ce qu'il a un intérêt aussi? Est-ce qu'il peut apporter quelque chose?
Le stretching, oui, il est intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, notre corps parle de nous. Notre corps est le réceptacle de notre vécu présent et passé. Donc, il faut savoir comment le corps fonctionne. Il y a un mode ascendant et descendant, c'est-à-dire qu'on a un mode perceptif des sensations vers le cerveau et du cerveau qui est la commande vers les muscles. Donc, ça marche dans les deux sens. Et en fait, si vous voulez, le stretching, c'est quand on détend les muscles, on renvoie à notre cerveau l'information que nous sommes détendus.
Donc, ça a beaucoup d'intérêt. Ouais.
C'est ça, exactement. Donc, si on étire par le stretching, ce qui est quelque chose de très naturel, eh bien, on conditionne l'apaisement. C'est le principe de relaxation de Jacobson ou le contracté relâché de Schultz, par exemple. C'est des systèmes de relaxation qui s'inspirent complètement du stretching.
Et donc, on améliore aussi la récupération.
On améliore la récupération parce qu'on entretient une certaine souplesse, on améliore la circulation sanguine. Et puis, quelque part, on réaligne la colonne vertébrale, on se réaligne. Et dans la posture, et je dirais presque mentalement aussi.
Moi, je me souviens quand j'étais sur le circuit européen il y a une petite vingtaine d'années, on savait qu'il fallait stretcher après la partie de golf, mais on ne pensait jamais au stretching avant, voire à la mobilité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les professionnels, justement, en font longtemps avant la partie.
Oui, oui, complètement. C'est une forme de routine mentale, d'ailleurs. On appelle ça les process et le warm-up. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est fait un peu avant, conditionne, en fait, le trou numéro 1, le trou numéro 2 et le trou numéro 3. Donc, ils font des déverrouillages, surtout des hanches, du dos, quelques micro-étirements des cuisses. En tout cas, c'est un conditionnement qui permet de se sentir bien dans son corps, bien dans son swing et qui augmente les sensations.
Et qui libère les muscles.
Et qui libère les muscles pour le swing en même temps. Donc, c'est une routine, un process à faire et à construire avant d'aller au départ du 1, en plus de l'échauffement avec les clubs.
Et j'avais envie aussi de vous demander, quelle était la différence sur le mental, la différence éventuelle, entre un entraînement que l'on effectue à l'extérieur, un entraînement physique à l'extérieur, par rapport à un entraînement physique à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des bénéfices différents?
Ah oui, il y a des bénéfices différents. Oui. Alors, quand on fait de la préparation physique à l'extérieur, bien déjà, on est connecté à la nature, on est connecté à l'extérieur. Donc, on sait par exemple que quand on court sur un chemin un peu plus irrégulier ou quand on fait du vélo sur une vraie route plutôt que dans une salle de fitness, on a tendance à vraiment augmenter les capacités physiques puisqu'il y a beaucoup plus d'adaptation, il y a beaucoup plus de variété. Donc, quelque part, c'est plutôt mieux à l'extérieur puis ça développe l'immunité. Mais moi, je m'appuie aussi sur une étude qui avait été faite au Japon sur le système endocrinien et sur les marches en forêt. Et ils se sont aperçus que, eh bien, en étant à l'extérieur, il y avait vraiment une activité sympathique supérieure. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre beaucoup plus d'énergie. On a tendance à avoir une baisse de la tension artérielle et puis une baisse surtout, ce qui nous intéresse sur le plan mental, de l'anxiété ou de la colère ou de la fatigue. Donc, si on fait la même séance à l'extérieur par rapport à l'intérieur, on aura plus d'effet. Maintenant, comme les golfeurs sont souvent à l'extérieur, des fois, ils aiment bien aussi venir un peu au chaud à l'intérieur.
Ouais, pour avoir un changement aussi,
et
je
ça,
suppose.
Exactement, c'est exactement ça. Le principe, c'est d'aller un peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, de manière à trouver un équilibre.
Et est-ce qu'il est préférable de faire une séance tout seul ou d'être à plusieurs? Est-ce que le fait d'être à plusieurs, justement, ça peut booster, ça peut motiver ou faire l'effet inverse?
Moi, je vous dirais que le golf, c'est vraiment le sport du lien social. C'est-à-dire qu'en fait, on rencontre beaucoup de monde. Donc je dirais que tout dépend comment s'est passée votre semaine et dans quel état émotionnel vous êtes. D'être sur une séance seule, ça aide à se reconnecter à soi. Donc on est plus centré sur son effort personnel. On est là aussi à un moment où on peut faire le point sur ses propres désirs, sa vie personnelle. Donc on rumine un peu, des fois ça peut faire du bien. Alors que quelquefois, on a besoin de liens sociaux et puis d'être avec les autres, ça motive. On va vers le dépassement, on va un peu plus loin qu'on aurait pensé. Parce que si on fait un footing avec les autres et puis qu'ils continuent à courir et que nous, on se serait un peu arrêté, eh bien, on continue. Donc, c'est favorable au dépassement. Et c'est favorable au lien social, c'est favorable à l'esprit de compétition et on sent un peu moins la fatigue, la douleur. Donc, les deux ont un avantage. Tout dépend dans quel état d'esprit vous êtes.
Donc, il faut bien s'écouter, en fait.
Voilà, il faut bien s'écouter avant de démarrer et surtout essayer de répondre à ses besoins du moment.
Et est-ce que les sportifs qui disposent naturellement de bonnes aptitudes physiques bénéficient automatiquement de bonnes habiletés mentales et inversement ?
Quelqu'un qui bénéficie de bonnes aptitudes physiques n'est pas forcément de bonnes habiletés mentales et inversement aussi. En fait, comme le disait David tout à l'heure, c'est très complémentaire. Moi, je vous invite à vraiment travailler les deux en même temps. Parce qu'on peut avoir la meilleure puissance possible, la meilleure résistance possible. Il faut se connaître en golf. Il faut apprendre quel est son jeu et quel est son jeu, c'est-à-dire sa manière d'être sur le parcours. Il faut respecter son style, sa signature. Il faut pouvoir mettre sa signature sur le parcours et imprimer son style. Donc, il faut apprendre à se connaître. Si ça n'a pas été fait, c'est plus compliqué. Et puis, imaginez un golfeur qui a un discours interne qui n'est pas forcément positif. Vous savez, on a entre 6 et 12 000 pensées par jour. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait de ces pensées? Si la personne se dit... finalement, j'ai été un peu idiot de faire ce coup, ou si seulement j'avais fait attention sur le vent, sur le t-shirt numéro 1. Bon, il ne se parle pas très bien. Plutôt que de dire, je suis fier des progrès accomplis, ou j'ai eu un bon contact sur ce coup-là. Si ce travail interne n'a pas été travaillé, il vient sabrer un peu toute la dimension physique. Donc moi, j'ai tendance à vous dire que comparez-vous par rapport à vous-même. Restez sur ce que vous pouvez contrôler, développez des outils mentaux, votre capacité à vous concentrer sur la respiration, développez de bonnes routines et faites ça en complément d'un développement de préparation physique. Et là, vous avez la meilleure alchimie possible qui viendra complémenter votre technicité.
Et est-ce que vous diriez que la préparation mentale a encore plus d'importance au golf que dans d'autres sports, car on passe plus de 4 heures sur le parcours ?
Je pense en effet complètement que la préparation mentale est un facteur déterminant. Alors, il n'y a pas que moi qui le dis, tous nos meilleurs coachs français nous le disent. De temps en temps, moi aussi, j'interagis avec un ou deux coachs aux États-Unis où j'ai des joueurs là-bas. Et ils disent la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nos meilleurs coachs sont devenus quasiment aussi des préparateurs mentaux. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un état un peu stable sur un parcours. Et ça se travaille. Il faut être dans l'anticipation de ce qui va se passer, plutôt que de dire on verra bien ce qui se passe. Et l'anticipation, c'est prendre en main les quelques outils que vous allez pouvoir trouver dans les podcasts sur cette dimension mentale. Et c'est de vraiment vouloir prendre en main cette dimension-là, puisque je ne sais pas si on peut hiérarchiser, mais je mettrais presque la préparation mentale en 1 et la préparation physique en 2, même si les deux sont interdépendants complètement.
Merci Cédric.
Merci Christelle.
Vous l'aurez compris, lorsqu'on effectue un entraînement physique, on ne se fait pas que du bien physiquement, on se fait aussi beaucoup de bien mentalement. On accède à un état de bien-être général et on se prépare à gérer ses émotions sur le parcours. Le corps se met finalement au service de l'esprit, mais encore faut-il apprendre à travailler dans le bon sens. Alors bon parcours intérieur !